L'encyclopédie, article concubinage. Ce terme a deux significations différentes. Il signifie quelquefois une espèce de mariage non solennel qui avait lieu chez les anciens et qui se pratique encore en quelques pays. Parmi nous, il signifie ordinairement le commerce charnel d'un homme et d'une femme libres, c'est-à-dire qui ne sont point mariés ensemble ni avec un autre. Si nous remontons au premier âge du monde, nous voyons que quelques-uns des patriarches avaient en même temps plusieurs femmes. Le premier qui en usa de la sorte fut Lamech, fils de Mathusaël. C'était la cinquième génération de l'homme. Lamech eut deux femmes, nommées Ada et Seila, qui sont également qualifiées d'Uxores, d'épouse. Il paraît que les descendants de Seth en usaient autrement, qu'ils avaient plusieurs femmes à la fois, mais que toutes n'avaient pas titre d'épouse, car il est dit dans la Genèse « Acceperunt sibi uxores ex omnibus quae legerant » qui attira la colère de Dieu sur l'homme qui est charnel, dit l'Écriture. Depuis Noé jusqu'à Abraham, on ne voit point que la pluralité des femmes fût usitée. Mais Sarah, ayant été longtemps stérile, ce qui était alors un opprobre pour une femme, excita son mari à connaître sa servante Agar, dans l'espérance qu'elle aurait d'elle des enfants. Agar ne devait pas, pour cela, ne devenait pas l'épouse d'Abraham. Elle resta toujours soumise à Sarah comme sa servante. Et lorsque Sarah eut mis au monde Isaac, Agar et son fils Israël, furent chassés de la maison d'Abraham à la sollicitation de Sarah, disant que les fils de sa servante n'hériteraient pas avec Isaac. Dans le même temps, il était commun chez les autres nations d'avoir des concubines. En effet, on voit que Sarah, femme d'Abraham, fut enlevée par Pharaon, roi d'Égypte, et quelque temps après par Abimelech, roi de Géar. Mais il paraît aussi qu'il était dès lors défendu de prendre pour concubine la femme d'autrui, car il ne fut point attenté à l'honneur de Sarah, parce que l'on connut qu'elle était femme d'Abraham. Jacob fut le premier des patriarches qui eut à la fois plusieurs femmes, deux femmes et deux concubines, qui étaient ses servantes de ces deux femmes. Il eut des unes et des autres plusieurs enfants qui furent traités également. Ésaü, son frère, eut à la fois trois femmes d'égales conditions. Éliphas, l'un de ses fils, eut une concubine, et c'est ainsi qu'elle est qualifiée. Il n'est pas dit que ce fût la servante de sa femme. Le concubinage fut depuis commun chez les Hébreux et les Juifs. Il y eut diverses lois faites à ce sujet. Il est dit au chapitre 21 du Lévitique que si un homme a commerce avec l'esclave d'autrui, si elle n'est pas préalablement rachetée, quoiqu'elle fût noble, tous deux seront fustigés, parce que cet esclave n'est pas libre, et que pour ce délit, l'homme offrira à la porte du tabernacle un bélier. Le chapitre suivant contient des peines contre l'adultère et contre la débauche commise avec des parents ou alliés. On distinguait alors les concubines des femmes livrées à une prostitution publique. Le concubinage fut toléré chez les Juifs à cause de leur endurcissement. Mais il y eut toujours une distinction entre les femmes qui avaient le titre d'épouse légitime et les concubines, quoiqu'alors le concubinage fût une espèce de mariage moins solennel, qui avait ses lois particulières. Salomon eut jusqu'à 700 femmes et 300 concubines. Les premières, quoiqu'en nombre excessif, avaient toutes le titre de reine, au lieu que les concubines ne portaient point à cet honneur. On vit quelque chose de semblable chez les Perses. Darius, outre la reine son épouse, avait jusqu'à 365 concubines, dont il se faisait suivre à l'armée. Et cette coutume a continué dans tout l'Orient. L'empereur de la Chine a dans son palais jusqu'à 2 ou 3 000 concubines. Le Sophie de Perse et le grand seigneur en ont aussi un très grand nombre. Les Grecs en usèrent de même que les Perses. Alexandre, roi de Macédoine, avait plusieurs concubines, dont il céda la plus belle et celle qu'il chérissait le plus à Athéna, qui en était devenu amoureux. Nous passons rapidement sur tous ces temps éloignés pour venir à ce qui se passait et ce qui se pratiquait chez les Romains, dont les lois furent encore partie de nos usages. On distinguait chez les Romains deux sortes de mariages légitimes et deux sortes de concubinage. Le mariage le plus honnête était celui qui se faisait solennellement avec beaucoup de cérémonie. La femme qui était ainsi mariée était nommée Uxor, Iusta Uxor, Coniux, Mater Familias. L'autre sorte de mariage se contractait sans autre formalité que d'avoir eu pendant un an entier une femme dans sa maison, ce que l'on appelait uxorem usurpere. La femme ainsi mariée s'appelait uxortantum ou matrona. Le concubinage était alors tellement autorisé qu'on le considérait comme une troisième espèce de mariage qu'on appelait iniustae nuptiae. Mais ce concubinage était de deux sortes. L'un, nommé iniustae nuptiae, et legitimae, c'était la liaison que l'on avait avec des concubines romaines de naissance qui n'étaient ni sœurs, ni mères, ni filles de celui avec lequel elles habitent et qui n'étaient point de condition servile. L'autre espèce de concubinage, appelée iniustae nuptiae et illegitimae, s'entendait de ceux qui habitaient avec des concubines incestueuses, étrangères ou esclaves. Numa Pompilius fit une loi qui défendait à la concubine, soit d'un garçon, soit d'un homme marié, de contracter un mariage solennel et d'approcher de l'autel de Junon. Ou, si elle se mariait, elle ne devait point approcher de l'autel de Junon, qu'elle n'eût auparavant coupé ses cheveux et immolé une jeune brebis. Cette concubine y est désignée par le terme de Pélex, par lequel on entendait une femme qui n'était point mariée, vivait néanmoins avec un homme comme si elle l'était. Il signifiait, comme on voit également, une concubine simple et une concubine adultère. On se servait encore du terme sous Jules César et sous Auguste, terme auquel on commença à substituer le mot concubina à l'ancien terme pellex. Ainsi, suivant l'ancien droit, le concubinage était permis à Rome à ceux qui restaient dans le célibat ou qui avaient été mariés mais ne voulaient pas contracter un second mariage par considération pour les enfants du premier lit. Mais depuis que la loi des 12 tables et autres lois postérieures eurent réglé les conditions pour les mariages, il fut ordonné que l'on ne pourrait prendre pour concubine que des filles que l'on ne pouvait pas prendre pour femmes à cause de la disproportion de conditions, comme des filles de conditions serviles ou celles qui n'avaient point de dot ou qui n'osaient pas les unes et les autres, qui n'étaient pas destinées à contracter alliance avec des honnêtes citoyens. Ainsi, les filles et femmes de condition libre, appelées ingenuae, ne pouvaient pas être prises pour concubines. Cela passait pour un viol. Il était défendu d'habiter avec elles en un autre lieu que celui d'épouse, à moins qu'elles n'eussent dégénéré en exerçant des métiers bas et honteux, auquel cas il était permis de les prendre pour concubines. On voit par là que le concubinage n'était pas absolument déshonorant chez les Romains. Les concubines, à la vérité, ne jouissaient pas des effets civils par rapport aux droits des femmes mariées, mais elles en différaient. Mais elles différaient des épouses que par la dignité de leur état et par l'habillement. Du reste, elles étaient locuxoris. On les appelait semi-conjuges et le concubinage semi-matrimonium. Le concubinage secret n'était pas permis par les lois romaines. Et le nom de concubine, quand le concubinage était public, était un titre honnête et très différent de celui de maîtresse que l'on appelait scortum. Jules César avait permis à chacun d'épouser autant de femmes qu'il jugerait à propos, et Valentinien permis d'en épouser deux. Mais il n'était pas permis d'avoir plusieurs concubines à la fois. Celles qui étaient de condition libre ne devenaient pas esclaves lorsque son maître la prenait pour concubine, au contraire. Celle qui était esclave devenait libre. La concubine pouvait être accusée d'adultère. Le fils ne pouvait pas épouser la concubine de son père. Suivant l'ancien droit romain, il était permis de donner à sa concubine. Il ne pouvait cependant être institué héritière universelle, mais seulement pour une demi-once, qui faisait un 24e du total. On permit ensuite de donner 3 onces, tant pour la mère que pour les enfants, ce qui fut étendu jusqu'à 6 onces. Et on leur accorda 2 onces ab intesta, dont la mère aurait une portion virile, le tout dans les cas où il n'y aurait ni enfant ni femme légitime. Les enfants procréés des concubines n'étaient pas soumis à la puissance paternelle et n'étaient ni légitimes ni héritiers de leur père, si ce n'est dans le cas où ils n'avaient point d'autres enfants légitimes. Ils ne portaient pas le nom de leur père, mais ils ne les traitaient pas de spouriis comme ceux qui étaient les fruits de la débauche. Ils portaient publiquement le nom de leur mère et le nom de leur père et le surnom de leur père. Quoiqu'ils ne fussent point de la famille paternelle, leur état n'était point honteux, et ils n'étaient point privés du commerce des autres citoyens. Le concubinage, tel qu'on vient de l'expliquer, fut longtemps autorisé chez les Romains. On ne sait pas bien certainement par qui il fut aboli. Les uns disent que ce fut Constantin le Grand, d'autres que ce fut l'empereur Néon. Tous deux en eurent fort part à ce changement. Constantin le Grand commença à restreindre indirectement cet usage en ordonnant aux citoyens d'épouser les filles qu'ils avaient auparavant eu comme concubine, et que ceux qui ne voudraient pas se conformer à cette ordonnance ne pourront avantager leur concubine ni les enfants naturels qu'ils auraient dès elle. Valentinien adoucit cette défense et permit de laisser quelque chose aux enfants naturels. Ceux qui épousèrent leur concubine, suivant l'ordonnance de Constantin, légitimèrent par ce moyen leurs enfants, comme l'empereur leur avait accordé le privilège. Justinien donna le même effet au mariage subséquent, mais le concubinage n'était point encore à son terme, de son temps. On l'appelait encore liquita consuetudo, et il était permis à chacun d'avoir une concubine. Ce fut l'empereur Léon qui défendit absolument le concubinage par sa nouvelle 91, laquelle ne fut observée que dans l'Empire d'Orient. Dans l'Occident, le concubinage continua d'être fréquent chez les Lombards et les Germains. Il fut même longtemps en usage en France. Le concubinage est encore usité en quelques pays où il s'appelle demi-mariage ou mariage de la main gauche, mariage à la morganatique. Ces sortes de mariages sont communs en Allemagne, dans les pays où l'on suit la confession d'Augsbourg. Suivant le droit canon, le concubinage et même la simple fornication sont exclus. Ducange observe que, suivant plusieurs épîtres des papes, les concubines paraissent avoir été autrefois tolérées. Mais cela doit s'entendre des mariages, lesquels, quoique moins solennels, ne laissent pas d'être légitimes. C'est aussi dans le même sens que l'on doit prendre le 17e canon du premier concile de Tolède, qui porte que celui qui, avec une femme fidèle à une concubine, est excommunié, mais que, si la concubine lui tient lieu d'épouse, de sorte qu'il n'a qu'une seule femme, au titre d'épouse ou concubine, à son choix, il ne sera point rejeté de la communion. Quels auteurs prétendent qu'il en était de même des concubines de Clovis, de Théoric, de Charlemagne, que c'étaient des femmes épousées, moins solennellement, et non pas des maîtresses. Comme les ecclésiastiques doivent donner aux autres l'exemple de la pureté des mœurs, le concubinage est encore plus scandaleux chez eux que dans les laïcs. Cela arrivait peu dans les premiers siècles de l'Église. Les prêtres étaient longtemps éprouvés avant l'ordination. Les clercs inférieurs étaient la plupart du temps mariés. Mais dans le VIe siècle, le concubinage était si commun et si public, même chez les prêtres, qu'on le regardait presque comme permis, ou du moins toléré. Dans la suite, on fit plusieurs lois pour réprimer ce désordre. Il fut défendu au peuple d'entendre la messe d'un prêtre concubinaire. Et on ordonna que les prêtres qui seraient convaincus de ce crime seraient déposés. Le concile provincial de Cologne, tenu en 1260, dénote pourtant que le concubinage était encore connu, commun, parmi les siècles. Cet abus régnait parallèlement encore parmi ceux d'Espagne, suivant le concile de Valladolid tenu en 1232, qui prononce des peines plus graves contre ceux dont les concubines n'étaient pas chrétiennes. Et le mal continuait toujours, et la rigueur des peines s'est adoucie. Suivant le concile de Bâle, les clercs concubinaires doivent d'abord être privés pendant 3 mois des fruits de leurs bénéfices, après lequel temps ils devaient être privés des bénéfices mêmes, s'ils ne quittent pas leurs concubines. Et en cas de rechute, ils doivent être déclarés incapables de tous offices et bénéfices ecclésiastiques pour toujours. Ce décret du Concile de Bâle fut adopté par la pragmatique section et est ensuite compris dans le Concordat. Le Concile de Trente a encore adouci la peine des clercs concubinaires avec une première monition. Ils sont seulement privés de la troisième partie des fruits. Après la seconde, ils perdent la totalité des fruits et ils sont suspendus de toute fonction. Après la troisième, ils sont privés de tous leurs bénéfices et offices ecclésiastiques et déclarés incapables d'en posséder aucun. En cas de rechute, ils encourent l'excommunication. En France, le concubinage est aussi regardé comme une débauche contraire à la piété du christianisme, à sa pureté, aux bonnes mœurs, non seulement par rapport aux clercs, mais aussi pour les laïcs. C'est un délit contraire à l'intérêt de l'État républicain et in interest legitima, sovole espion civitatem. Si les ordonnances n'ont point prononcé directement de peine contre ceux qui vivent en concubinage, c'est que ces sortes de conjonctions illicites sont le plus souvent cachées et que le ministère public n'a pas coutume d'agir pour réprimer la débauche, à moins qu'elle n'occasionne un scandale public.